Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Mes bien-aimés, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous contentez pas de l'écouter en vous leurrant vous-même. Mes très chers frères, ceux qui arguent de l'obscurité de la parole de Dieu pour ne pas l'écouter et pour agir à leur guise, ne peuvent aujourd'hui se dérober à la parole de Dieu telle que l'épître de Saint Jacques que nous venons d'entendre nous la prêche, nous la fait entendre. Elle est d'une clarté qui n'a presque pas besoin de commentaires. Il faudra bien dire quelque chose sur cette épître, mais ce texte est tellement clair qu'il est impossible de se retrancher derrière l'argument que l'écriture est toujours très obscure et très incompréhensible pour ne pas l'écouter. Il suffit d'avoir entendu cette épître que vous venez d'entendre pour avoir tout compris, si l'on peut dire, et une fois qu'on a tout compris, eh bien, il faut mettre en pratique, car c'est justement ce que dit cette épître. Y a-t-il un texte plus clair, plus compréhensible, plus intelligible que l'épître de Saint Jacques de ce cinquième dimanche après Pâques? Notre Seigneur va bientôt nous quitter. Je dis, c'est l'ascension de notre Seigneur. C'est le dernier dimanche où le cierge pascal est allumé. Nous l'éteindrons jeudi après la lecture de l'Évangile et il ne sera plus allumé. Notre Seigneur va bientôt nous quitter. Il va nous priver de sa présence sensible puisque nous avons besoin qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit nous soit donné. Alors, mes très chers frères, en ce dernier dimanche de cette première partie du temps pascal, prêtons l'oreille à sa parole, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Nous avons plusieurs choses à voir aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Premièrement, nous verrons un petit peu cette opposition que fait Saint Jacques, apôtre, entre l'écoute stérile et la pratique fructueuse de la parole de Dieu. Nous verrons les résultats inconnus, méconnus, de la pratique. Nous verrons qu'il y a un résultat qui est très encourageant lorsque l'on pratique la parole de Dieu, mais la plupart du temps, on n'y pense pas. Nous verrons quel il est. Et nous verrons aussi la nécessité de la persévérance dans la pratique. Cela nous amènera à notre deuxième point, où nous verrons ce qu'il faut demander pour persévérer. Nous verrons aussi comment demander, c'est une préoccupation qui revient souvent dans les sermons. Nous verrons donc ce qu'il faut demander, comment demander, et c'est pour cela que nous ferons un examen rapide de l'oraison, l'oraison collecte de ce jour. Et enfin, nous terminerons brièvement en voyant la clé de voûte de toute demande. Nous verrons par qui et dans quel but demander le vouloir et le faire à Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Écoutez ce que dit Saint Jacques. Mes bien-aimés, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous contentez pas de l'écouter en vous leurrant vous-même. Saint Jacques nous délivre ici un enseignement sur la religion pratiquée à salut. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent la religion chrétienne, quel que soit le sens que l'on donne à cette expression, et qui ne la pratiquent pas à salut. Il y a beaucoup de gens qui ne figurent pas parmi les mécréants. Il y a beaucoup de gens qui ne voudraient absolument pas être pris ni pour un athée, ni pour un agnostique, ni pour un acatholique. Il y a beaucoup de gens qui assistent à la messe tous les dimanches, même dans les bonnes chapelles, etc. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent la religion, mais qui ne la pratiquent pas comme l'Écriture sainte, c'est-à-dire comme Dieu, par la voix de l'Église, veut que nous la pratiquions. C'est pour cela que, alors que notre Seigneur va remonter au ciel, Saint Jacques, liturgiquement parlant, Saint Jacques nous donne un enseignement pour bien commencer la suite de notre vie chrétienne. Jusqu'à présent, notre Seigneur a marché avec nous, il nous a tenu la main, nous avons joui de sa lumière, de sa présence, nous avons vu, nous avons touché ses plaies, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous nous sommes réjouis. C'est une chose excellente de se réjouir, nous avons parlé un tout petit peu ces dimanches précédents, ou lors des dimanches précédents, de la joie du temps pascal. Mais tout ceci est éphémère. Tout ce qui est sensible est éphémère. Même la joie de la présence sensible de notre Seigneur est éphémère, puisqu'elle a cessé. Comment garder l'essentiel de ce que Dieu veut que nous conservions, c'est-à-dire lui-même, en pratiquant la religion, sans nous contenter de l'écouter. Et nous verrons que c'est déjà beaucoup d'écouter la religion, c'en est une autre, c'est une autre chose que de la mettre en pratique. Il est impossible de ne pas comprendre, disions-nous, ce que dit Saint Jacques. Il est impossible de comprendre, de ne pas comprendre ce que dit Saint Jacques. Lorsqu'il nous dit « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous contentez pas de l'écouter en vous leurrant vous-même », il faudrait vraiment être de mauvaise foi si nous ne comprenions pas ce que dit Saint Jacques. Et pourtant, il n'y a rien de plus difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que quelque chose en nous nous bouche les oreilles. Et c'est le vieil homme, bien entendu, mes très chers frères. Cela est pénible au vieil homme, puisque le vieil homme voudrait bien que nous nous contentions d'écouter la parole. Mais il est dit, ne vous contentez pas d'écouter en vous leurrant vous-même. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu, alors la parole de Dieu, c'est l'enseignement de l'Église, nous y reviendrons, c'est aussi la lecture dans le cadre de la foi de l'Église, les lectures de la parole de Dieu telle que nous venons d'entendre, par exemple, ou quand on lit régulièrement la parole de Dieu, d'une manière ou d'une autre, c'est Dieu qui nous parle. Lorsque Dieu nous parle, nous l'écoutons, mais si nous nous en tenons là, nous nous leurrons nous-mêmes. Se leurrer soi-même, c'est l'œuvre du vieil homme. Le vieil homme, c'est-à-dire nous tels que nous ne sommes plus, le vieil homme, cette trace du péché originel en nous qui se manifeste par la concupiscence, le vieil homme, dis-je, veut bien nous laisser écouter la parole de Dieu, mais en nous persuadant que l'essentiel c'est d'écouter, il nous trompe, et donc Saint Jacques nous dit, nous nous trompons, nous nous leurrons nous-mêmes. C'est une chose typique du vieil homme, qui cherche, lorsque le chrétien est quand même relativement un bon chrétien, qui cherche à être chrétien, à avoir les avantages de la profession de foi chrétienne, sans embrasser les maximes de l'Évangile. C'est pour cela que Saint Jacques oppose deux attitudes ici, qui sont très claires dans le texte original. Et ce est factores verbi et non auditores tantum. Soyez, esteté, factores verbi, les facteurs du verbe, ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Soyez les pratiquants de la parole de Dieu. Il y a une ambiguïté dans cette expression, dans le mot pratiquant, tel que on le connaît, disons, depuis le XXe siècle, dans le langage sociologique, le langage courant. On dit il y a des chrétiens qui sont non pratiquants, il y a des chrétiens qui sont pratiquants. On peut le dire aussi pour le judaïsme, pour l'islam. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas contre la religion, mais ce sont des gens qui ne se mettent pas en peine d'en pratiquer les maximes ou les ordonnances. Il se trouve que lorsque l'on dit « moi je ne suis pas pratiquant », on est dans une situation qui est typiquement mauvaise puisque on est condamné par la foi qui est la nôtre, et on la met, parce qu'on ne la met pas en pratique, eh bien, cette foi que l'on fait une fierté de professer sans la pratiquer, elle nous condamne. Mais lorsqu'on dit « je suis pratiquant », qu'est-ce que ça veut dire? La plupart du temps, ça veut dire « je vais à l'église le dimanche, je fais quelques actes de religion », quand on parle les néo-catholiques ou les gentils, lorsque on leur dit « est-ce que vous êtes pratiquant ?»« Oui, je suis pratiquant, qu'est-ce que ça revient à quoi ?»« Je vais à la messe, essentiellement sur les grandes fêtes, etc. » C'est ça, pratiquer. Ce n'est pas en ce sens-là que nous utilisons dans ce sermon et dans l'épître de Saint-Jacques le terme de pratiquant. Pratiquant signifie, si l'on peut dire, parfait. Non pas qu'on soit un saint canonisable, mais c'est-à-dire celui qui met en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire qui obéit à Dieu, et c'est à la fois tout, et c'est déjà pas mal. Le pratiquant, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Donc on n'est pas simplement quelqu'un qui fait, là devant, quelqu'un qui fait une fleur à la religion en allant faire acte de présence dans l'église à certains moments clés de l'année liturgique. Nous sommes là face à quelqu'un qui ne se trompe pas lui-même. Le pratiquant, au sens de Saint Jacques, c'est celui qui ne se trompe pas lui-même. Et comment nous tromper nous-mêmes? En se contentant d'écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Le pratiquant, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Factores, il est dit factores, c'est-à-dire le facteur, c'est-à-dire celui qui fait. Le pratiquant, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Ça ne veut pas forcément dire, et ce n'est pas le sujet de notre sermon aujourd'hui, qu'il ne pèche jamais, qu'il ne tombe jamais, qu'il n'a pas de faiblesse. C'est pas ça. Tout ça est tout à fait compatible avec la pratique. Mais celui qui n'est pas pratiquant, c'est celui qui se trompe lui-même parce qu'il ne fait qu'écouter et il ne met pas en pratique. Celui qui met en pratique se met et face à au problème de la pratique, c'est-à-dire que tout ceci est difficile et pénible, mais il pratique, il met en pratique. Vous voyez la différence fondamentale. La religion consistant, mes très chers frères, à aimer Dieu, ne pas lui obéir, c'est ne pas l'aimer. Si vous aimez quelqu'un, si les enfants, si vous aimez vos parents et que vous ne leur obéissez jamais ou très peu, est-ce qu'on peut dire que vous êtes sincère lorsque vous dites « j'aime ma maman, j'aime mon papa » ? Si vous aimiez vraiment vos parents, vous leur obéiriez. Bien sûr, ça serait difficile, bien sûr, des fois c'est pénible, des fois c'est difficile, des fois il faut renoncer à soi-même pour obéir à ce que dit papa ou maman, mais puisqu'on aime ses parents, on leur obéit. C'est la même chose pour la vie chrétienne, puisque Dieu est notre Père. Si nous aimons Dieu, et la religion consiste à aimer Dieu, le premier commandement c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée », ce qui est quand même très exclusif de tout le reste, de toute autre occupation et préoccupation, si nous aimons Dieu, alors nous lui obéissons. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, dit notre Seigneur. Si nous aimons Dieu, nous lui obéissons. Si nous ne lui obéissons jamais, c'est que nous ne l'aimons pas. Donc si des fois nous nous disons, je n'aime pas Dieu, alors du coup, la situation est réglée, la question est réglée. Maintenant, si nous nous disons, et c'est quand même plus fréquent, j'aime Dieu, mon Dieu, je vous aime, et que nous ne mettons pas en pratique ses commandements, alors ça veut dire que nous nous trompons nous-mêmes. C'est que quelque chose en nous, j'allais dire quelqu'un, mais il ne faut pas exagérer, quelque chose en nous nous laisse dire à Dieu que nous l'aimons, mais ne nous laisse pas l'aimer en réalité, dans les faits. Et c'est le vieil homme, c'est la concupiscence, c'est nous-mêmes tels que nous nous dissocions de notre baptême, du baptême que nous avons reçu. Ne pas obéir à Dieu, c'est ne pas l'aimer. Donc, aimer Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est être un saint? Est-ce que c'est être à deux doigts d'être canonisé sur les autels? Alors, évidemment, être canonisable est un bon indice, disons, d'une vie qui aime Dieu. Mais ce n'est pas cela, aimer Dieu. Aimer Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout être normal. Pour un être humain, aimer Dieu, c'est être normal. Tant que l'homme n'aime pas Dieu, il n'est pas normal, mes très chers frères. Dieu ne dit pas, vous commencerez par ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas tuer. Ensuite, si vous pouvez, vous assisterez aux fêtes religieuses. Et alors, cerise sur le gâteau, mais alors simplement pour les plus courageux, les plus intelligents, les plus motivés, si vous pouvez aimer Dieu avec une relative quantité de vos forces, ça serait pas mal. Là, c'est la religion inverse. D'ailleurs, c'est une religion qui existe, c'est une religion, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais nous sortirions de notre sujet. Si le fait d'aimer Dieu était la cerise sur un gâteau qui serait par ailleurs parfait en lui-même, alors on pourrait dire que aimer Dieu est quelque chose de surérogatoire, qu'il est beau de faire, mais qu'il n'est pas tout à fait utile de faire toujours. La réalité, c'est que c'est le contraire. On n'est pas normal, on n'a pas commencé à être un être humain normal, c'est-à-dire nous sommes des êtres humains qui ne sont pas sortis d'un état de monstruosité, de dissimilitude, d'abjection et d'aliénation, tant que nous n'aimons pas Dieu. Aimer Dieu, c'est être normal. L'Écriture nous dit que aimer le péché, c'est aimer la mort. Haïr la sagesse, ne pas aimer la sagesse, c'est aimer la mort. C'est se haïr soi-même. C'est ne pas aimer la vie telle que Dieu nous l'a donnée et telle qu'il la veut pour nous. C'est œuvrer à son malheur, tant temporel qu'éternel. C'est ne pas être normal. Quel est l'homme qui veut faire exprès des choses pour se nuire à lui-même? Personne. Alors, quel est l'homme qui n'aime pas Dieu? Presque tout le monde. Donc, la quasi-totalité de l'humanité n'est pas normale. Voilà la réalité de l'état de l'humanité. Aimer Dieu, c'est, quand on aime Dieu d'une façon héroïque et maximale, on est un saint. Mais aimer Dieu, et pratiquer, c'est-à-dire pratiquer ses commandements, sinon on ne peut pas être dit vraiment l'aimer, c'est être normal. Nous ne sommes pas normal si nous n'aimons pas Dieu, nous ne sommes pas normal si nous n'obéissons pas à Dieu. Nous haïssons nous-mêmes, pas dans le bon sens du terme, mais dans le mauvais sens du terme, si nous n'aimons pas Dieu. Le facteur du verbe, celui qui met en pratique la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui aime Dieu, donc qui s'aime lui-même comme il faut, de telle sorte qu'il puisse aimer son prochain. Et nous verrons dans un instant que la religion pure, la piété pure et sans tache aux yeux de Dieu, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse. Consiste encore en d'autres choses, nous y reviendrons. Donc, si nous aimons Dieu, alors nous nous aimons comme il faut. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Si nous n'aimons pas Dieu, nous ne sommes pas normaux. Donc, comme nous ne nous aimons pas de la bonne manière, nous ne pouvons pas aimer notre prochain. Vous voyez, comme tout est lié, ce n'est pas très difficile, c'est le béaba du catéchisme. Aimer Dieu, c'est être normal. Aimer Dieu, c'est s'aimer soi-même de la bonne façon. C'est donc être capable d'aimer son prochain pour l'amour de Dieu. C'est ça le factores verbi, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. S'opposent à eux les auditores tantum. Alors, pas les auditores tout court. Alors vous allez dire, parlez français, qu'est-ce que vous racontez? Il y a ceux qui mettent en pratique et il y a ceux qui écoutent. Saint Jacques oppose les uns et les autres, mais attention, ceux qui mettent en pratique sont nécessairement des gens qui ont écouté la parole de Dieu. Sinon, comment est-ce qu'ils mettraient en pratique des choses qu'ils n'ont pas entendues? Vous voyez, Saint Jacques dit auditores tantum, c'est-à-dire seulement auditeurs. Ne soyez pas seulement des auditeurs. Si nous disons cela, c'est qu'il y a quelque chose de très important, c'est que bien souvent, on voit ça souvent chez les gens de bonne volonté, mais qui sont chez les néo-catholiques, chez les quasi-mécréants, ce sont des gens qui sont tout à fait capables de faire des bonnes œuvres, de faire des choses bonnes pour leur prochain, qui se dépensent, nous en parlions encore la semaine dernière, me semble, ils se dépensent pour leur prochain sans compter, c'est vrai, mais ce sont des gens qui se font une gloire d'être adogmatiques, des gens qui sont tout à fait ouverts religieusement, qui acceptent tous les dogmes dans la mesure où on ne leur impose pas. Vous voyez, souvent on tombe sur des gens comme ça, c'est les gens les plus sympathiques, les plus gentils du monde, et je le dis vraiment sincèrement, ce sont les gens les plus sympathiques du monde. La seule chose, ça ne peut pas être des factores, parce qu'ils ne sont pas auditores, c'est-à-dire ils ne peuvent pas être des gens qui mettent en pratique la parole de Dieu parce qu'ils ne l'écoutent pas. Vous avez des gens qui se dépensent dans des associations caritatives pour le prochain, etc. Et on pourrait dire, ah ben, c'est sûr qu'ils ne sont pas pratiquants, mais en tout cas, ils font du bien. Quel bien voulez-vous qu'ils fassent puisqu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu? Alors vous allez dire, oui, mais enfin, on sait très bien, la parole de Dieu nous demande de faire des choses qui, grosso modo, ressemblent à ce que font les gens qui sont dans le caritatif. Alors, ce n'est pas totalement faux, ça c'est vrai. Parce que, pourquoi? C'est pas parce que ces gens-là sont chrétiens sans le savoir, c'est parce qu'il n'y a pas 36 manières de souffrir quand on est un homme, et il n'y a pas 36 manières d'aider quelqu'un qui souffre quand on est un homme. Donc, quand vous voyez un pauvre qui meurt de faim et que vous lui donnez à manger, quand vous êtes des auditores, et des factores, vous faites une bonne œuvre pour l'amour de Dieu, puisque vous donnez à manger à celui qui a faim. Mais lorsque vous voyez un homme et qui meurt de faim et que vous lui donnez à manger et que vous ne le faites pas pour l'amour de Dieu, parce que vous ne voulez pas savoir que c'est ce que Dieu vous demande, eh bien vous faites matériellement une bonne œuvre, mais en réalité elle est inutile pour la vie éternelle. Elle n'est pas inutile en soi. Il vaut mieux aller en enfer avec des bonnes œuvres plutôt que sans bonnes œuvres, ça c'est certain. Mais en même temps, on va en enfer quand même. Vous voyez, bon, je parle brutalement, mais enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut donc être, pour être des véritables factores, pour être véritablement de véritables pratiquants de la religion, il faut être des auditeurs. Mais il ne faut pas être seulement des auditeurs. Il faut être des auditeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Attardons-nous juste une minute sur ce thème. Il faut écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire il faut écouter l'Église. Et il faut la pratiquer ce qui nous est dit. Écouutez la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous allez dire, oui, mais moi je lis la Bible, etc. C'est très bien. C'est très bien, encore faut-il le faire en catholique. Encore faut-il le faire et en catholique. Qu'est-ce que ça veut dire un catholique? Celui qui est un fidèle, qui fait profession de la foi catholique et qui est soumis au pasteur légitime. Si vous lisez la parole de Dieu dans votre coin le dimanche parce que vous n'allez pas à la messe là où il faut et que, je ne dis pas qu'il n'y a pas de vraie messe accessible, mais si vous, parce que d'une certaine manière, si vous êtes plus ou moins homme à l'honneur, etc., vous avez des tendances de homme à l'honneur, vous vous damnez tout seul en lisant, alors vous lisez la parole de Dieu, ça vaut mieux que regarder un film, mais d'une certaine manière, c'est tout aussi vain puisque vous le faites hors église. En dehors de la foi, en dehors de ce qu'il faut, en dehors de la bergerie du bon pasteur. Il faut écouter l'Église. Écouter l'Église, c'est, alors ça peut être de divers manières, écouter les pasteurs, les premiers pasteurs, les pasteurs du second ordre, ça peut être lire de bons livres recommandés par les pasteurs, ou non exclus par les pasteurs, enfin en tout cas recommandés par les pasteurs, c'est lire l'Écriture sainte dans le cadre de l'Église, bien entendu, avec, dans, comme il le faut, pas comme les protestants évidemment, mais comme les catholiques en vérité, ça peut être toutes sortes de choses, bon, c'est vrai, ça peut être éventuellement écouter un sermon, bon, enregistré. Ça, c'est écouter la parole de Dieu. Maintenant, on n'écoute pas la parole de Dieu quand on écoute les productions des militants, quand on écoute n'importe qui s'autoproclame docteur en Israël et qui vous fait des leçons de morale ou autre. Lorsque ce n'est pas écouter la parole de Dieu que d'être touché par le retweet d'une bonne femme militante qui vous qui cite un père de l'Église, vous dites, mais c'est le père de l'Église, c'est un père de l'Église. Non, non, c'est dans le mauvais contexte. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Vous vous laissez farcir le cerveau, si j'ose dire, de toutes sortes de sottises, je dis bien de sottises, alors même que ça serait des versets de l'Écriture, des passages du magistère ou de l'enseignement du magistère ou des pères de l'Église. Vous laissez votre esprit vous farcir de toutes sortes de sottises parce que vous n'écoutez pas l'Église. Vous écoutez selon votre propre fantaisie. Vous allez dire, oui, mais j'écoute ce que par ailleurs, la même chose que l'Église dit. Ah, mais alors vous venez de confesser que vous écoutez ce que l'Église dit, et si quelqu'un dit la même chose que l'Église, vous l'écoutez aussi. Vous allez dire, mais c'est la même chose. Oui, mais ce n'est pas la même personne. Lorsque l'Église dit, vous aimerez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, elle a les moyens de nous le faire aimer, ce bon Dieu. Lorsque n'importe qui, sans rentrer dans les détails, mais lorsque n'importe qui vous dit, n'oubliez pas que le premier commandement, c'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, il dit la même chose, mais il n'a pas les moyens de vous donner la force. Vous allez dire, oui, mais enfin, il nous renvoie, il relaie ce que dit l'Église. C'est bien la preuve que ce n'est pas l'Église qui parle. Parce que lorsqu'un père de famille enseigne ses enfants, enseigne son épouse sur ce qu'il a entendu de l'Église et à l'Église, c'est l'Église qui parle. Et on peut pas dire, le petit enfant ne peut pas dire, oui, mais c'est papa qui l'a dit, mais c'est pas monsieur l'abbé ou c'est pas monseigneur. C'est ton père qui l'a dit, il l'a écouté, il a entendu dire à l'Église et de l'Église, c'est un vrai catholique. C'est Dieu lui-même qui parle, c'est l'Église qui parle par la bouche du Père, par la bouche de la Mère, ordonnée, qui enseigne leurs enfants. C'est Dieu même qui parle. Alors vous allez dire, vous êtes en train de vous contredire. Pas du tout. Je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de façons, beaucoup de bouches par lesquelles l'Église parle, et il y en a encore plus par lesquelles elle ne parle pas. Écoutons l'Église par quelques bouches qu'elle parle, et détournons l'oreille lorsqu'une bouche non autorisée dit des choses, fussent-elles les mêmes choses que l'Église. D'ailleurs, en partie, c'est les mêmes choses que l'Église, et puis en partie, c'est les productions d'un cerveau malade. Donc, vous voyez, faisons très attention, mes très chers frères. Auditores, il faut que nous soyons des auditeurs de l'Église, uniquement de l'Église, strictement de l'Église, rien que l'Église. Il ne faut écouter aucune autre voix que celle de l'Église, par quelques bouches autorisées qu'elle utilise pour nous enseigner. Il faut écouter l'Église et détourner l'oreille des paroles. Le diable, lorsqu'il a tenté notre Seigneur, a utilisé les paroles même de Dieu, la parole même de Dieu. Et notre Seigneur ne l'a pas écouté. Il a triomphé de cette tentation. Donc vous voyez, on peut citer les mêmes mots que l'Église et on peut être en même temps le diable. Je ne dis pas que tous ceux qui citent sont des diables, mais en tout cas, ce sont ses enfants. Il faut écouter donc, soyez des écouteurs, mais pas des écouteurs seulement. Il faut écouter, donc être enseigné, mais il faut pratiquer, mes très chers frères, afin de ne pas se tromper soi-même. Nous l'avons dit, se tromper soi-même, c'est l'œuvre du vieil homme en nous-mêmes. L'écrasante majorité, mes très chers frères, de ceux qui croient être catholiques, se damnent faute de pratiquer. Et quand je dis l'écrasante majorité, c'est une toute petite minorité dans l'humanité, aujourd'hui, je parle à notre époque. C'est une toute petite minorité dans l'humanité, eh bien, l'écrasante majorité de cette toute petite minorité se damne. Vous allez dire, dites-nous quelque chose d'encourageant. Mais c'est encourageant, parce que le simple fait de le savoir permet, si Dieu nous prête son aide et sa grâce, permet de ne pas en être de ceux qui se damnent. Si on dit, ah, vous allez prendre ce voyage dans la montagne, faites très attention, il y a un précipice. énorme et il n'y a pas de parapet le long d'une route qui est extrêmement étroite. Alors vous allez dire, merci, je vais partir en voyage, c'est encourageant. Au contraire, le voyageur normal vous dira, merci infiniment, parce que comme il se peut que je voyage de nuit, vous m'avez prévenu et je vais maintenant longer la paroi de telle sorte de me tenir très éloigné de ce précipice. Merci de m'avoir parlé de ce précipice atroce dans lequel tant de gens tombent. Vous voyez, parler de ces choses-là, c'est pas à décourager les gens, puis de toute façon, Dieu seul sait le nombre des élus, c'est pas ça le problème, ce n'est pas décourager les gens, c'est au contraire les prévenir et les empêcher de tomber dans le précipice, de suivre les aveugles qui les feront tomber dans une fosse. L'écrasante majorité de ceux qui croient être catholiques se damnent, mes très chers frères, faute de pratiquer. Ils écoutent, ah ça pour c'est sûr, ils écoutent. Ils écoutent dans leurs petits iPods et compagnie, dans leurs oreilles, là, et c'est sûr qu'ils écoutent, tout et n'importe quoi. Mais n'étant pas les factores verbi, nous allons voir le sens très précis que cela a dans un instant avec l'aide de Dieu, ils se trompent eux-mêmes. Et pourtant, ils font des sacrifices, pourtant, ils vont en prison, certains, pas tous, mais enfin certains. Pourtant, ils vont en prison pour toutes sortes de raisons, etc. Ce sont ni des martyrs, ni des catholiques, ni rien du tout. Ce sont des gens qui écoutent, mais qui n'écoutent que eux-mêmes. Ils écoutent la concupiscence. Et vous voyez, on peut écouter plein de gens. Il n'y a pas que le bon Dieu qui parle. Écoutez le bon Dieu, tel que sa voix retentit dans l'Église, et mettez en pratique de telle sorte que vous ne vous trompiez pas vous-même en n'étant que des auditeurs. Le vrai chrétien, c'est un auditeur qui pratique. Le chrétien qui se trompe lui-même, je ne dis pas qu'il n'est pas chrétien, je dis qu'il se trompe lui-même et il se damne, il écoute seulement, tantôt, il écoute seulement. Saint Jacques utilise une comparaison très intéressante. Il dit « Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, il se regarde, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Étrange comparaison. Une comparaison qui, intuitivement, que nous comprenons intuitivement. Mais vous voyez, c'est une comparaison extrêmement importante dont il nous faut comprendre les termes. Nous n'allons pas trop rentrer dans les détails, mais nous allons voir que c'est très important. Saint Jacques parle à un chrétien pratiquant. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, pratiquant au sens sociologique. C'est-à-dire qu'il écoute la parole de Dieu, il fait un certain nombre d'efforts pour ne pas être parmi ceux qui se moquent éperdument de la religion, mais, dit-il, il regarde, ce qui est déjà un peu plus que simplement écouter, il regarde, il examine, il prête une oreille attentive, ce n'est pas un auditeur distrait, c'est un auditeur scrupuleux, dans le bon sens du terme, mais il s'en va et oublie aussitôt comment il était. Il oublie. Comment ne pas oublier ce que l'on a entendu enseigner par l'Église? Comment ne pas oublier? Alors vous allez dire, j'ai une pauvre mémoire, je prends des notes, mais non, c'est pas ça. Mais attends, développez votre mémoire, prenez des notes, tout ça c'est très bien, mais c'est pas ça, oublier. Oublier, c'est oublier ce que l'on a vu dans le miroir de l'Écriture sainte. Alors vous allez dire, qu'est-ce que ça signifie? Tout d'abord, ça veut dire, et ça je cite la quasi-totalité des auteurs qui commentent ce passage, ça veut dire que lire l'Écriture sainte, selon les catégories de la curiosité, de ce qu'on appelle en théologie la curiosité, ce n'est même pas regarder l'Écriture sainte, ce n'est même pas regarder l'Écriture sainte telle qu'elle est un miroir de ce que nous sommes et de ce que nous devons être. Lire l'Écriture sainte par curiosité, pour en faire un article d'exégèse qui nous fera passer pour un docteur en Israël et un habile exégète, lire l'Écriture sainte pour en tirer quelques versets choc et les mettre sur sa page Facebook, tout ça, c'est pas lire l'Écriture. Je dirais charitablement, c'est faire strictement n'importe quoi. Et, évidemment, c'est le thème, c'est en fin de cours, si on persévère, c'est se damner. Lire l'Écriture, c'est de cette manière-là, c'est la profaner. Et Dieu ne peut pas récompenser les profanateurs. Lire l'Écriture, se contempler dans le miroir de l'Écriture, c'est écouter ce que l'Église nous enseigne à partir de l'Écriture sainte sur ce que nous sommes et agir en conséquence. Et qu'est-ce que l'Écriture sainte, qu'est-ce que l'Église nous enseigne que nous sommes, nonobstant les faux théologiens et les histrions et autres optimistes? c'est que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, que de nous-mêmes, nous n'avons que la force et la liberté de pécher, et que tout le bien que nous faisons et qui se trouve en nous et qui nous est imputé à justice vient de Dieu. Voilà ce qu'elle nous enseigne, l'Écriture sainte. Si nous l'oublions, eh bien, nous ne sommes que des auditeurs oublieux. Mais si nous en tirons les conséquences pratiques, alors, mes très chers frères, alors, eh bien, alors il se passe quelque chose que nous allons voir dans un instant. Vous allez dire, mais c'est décourageant ce que vous dites, vous êtes tout le temps en train de dire cela. Ben, si nous sommes tout le temps en train de dire cela, c'est que peut-être vous êtes tout le temps en train de l'oublier aussi. Combien de fois avons-nous entendu des gens dire, oui, mais ces paroles, cette noirceur de la nature humaine, du tableau de la nature humaine que vous dépeignez souvent, enfin c'est pas moi, hein, c'est plutôt l'Église en réalité, mais enfin bon, mettons que ça soit moi, c'est quelque chose, c'est décourageant, ça ne pousse pas les gens, c'est pessimiste, et puis vous mettez tout le monde dans le même panier, etc. Ah, attendez, oui, vous voyez combien le pélagianisme est orgueilleux. Le pélagianisme est un élitisme. Tandis que ce qu'on appelle l'augustinisme n'est pas du tout un élitisme, si j'ose dire. C'est-à-dire que pour le pélagien, si vous êtes bien né, si vous avez des bonnes dispositions, si vous êtes un homme naturellement porté à la vertu, alors là, c'est le haut du panier, et les autres devraient vous prendre exemple, toutes ces autres crapules qui ne font pas le moindre effort pour pouvoir être vertueux. Ça, c'est le pélagianisme. Seigneur, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont méprisables. Vous voyez ? L'augustinisme nous dit, nous sommes tous enfants d'Adam. Quand je dis l'augustinisme, c'est comme ses ennemis, les ennemis de l'Église catholique l'appellent. En fait, c'est la doctrine de l'Église, la doctrine de l'Écriture sainte, la doctrine de tous les pères, sauf de quelques histrions vers la fin des temps qui s'appellent théologiens. Donc, la doctrine de l'Église catholique, c'est que nous sommes tous enfants d'Adam, nous sommes tous corrompus, nous sommes tous capables de ce que le pire d'entre nous, de ce dont le pire d'entre nous est capable. C'est-à-dire que l'homme le plus vertueux, le plus enrichi des dons de la grâce, le plus capable d'être canonisé par l'Église dès lors qu'il sera mort, est par lui-même capable de faire ce que fait le pire, est capable de faire la pire des crapules, si, pour m'exprimer comme Legends aujourd'hui, est capable de faire ce que fait le pire des serial killers. C'est-à-dire que un monstre qui massacre son prochain pour des raisons névrotico-psychotiques, etc., un saint serait capable de le faire s'il n'avait pas la grâce. C'est ça ce qu'enseigne la doctrine catholique. Alors vous allez dire, oui, donc du coup, autant se laisser aller. Mais non, qui est-ce qui dit ça ? Pas du tout. Ça veut dire que nous devons comprendre que le tableau de notre visage, c'est-à-dire de notre être, tel qu'il est depuis la chute, que nous dépeint l'Écriture, le miroir de l'Écriture dans lequel nous nous examinons tel que nous sommes, doit nous convaincre que tout seul, nous ne pouvons rien, que sans le Christ, nous ne pouvons rien. Voilà ce qu'il ne faut jamais oublier. Vous allez dire, mais justement, je n'oublie jamais et ça me décourage. Vous n'oubliez pas, c'est vrai, mais vous êtes découragé pourquoi ? Parce que vous restez seul. Alors effectivement, vous n'êtes pas comme quelqu'un qui s'en va et qui oublie. Vous êtes quelqu'un qui s'en va et qui oublie que sans le Christ, nous ne pouvons rien. Alors vous allez dire, mais justement, je ne l'oublie pas. Oui, mais si vous n'oubliez pas que sans le Christ, nous ne pouvons rien, pourquoi vous n'allez pas au Christ ? Alors vous allez dire, mais je demande et je n'obtiens pas. C'est Saint Jacques qui le dit dans ce même épître. Pourquoi ? Parce que je demande mal. Et nous y reviendrons dans un instant. Le miroir de l'Écriture sainte nous apprend que nous sommes en nous-mêmes des néants, des monstres, des malades, des lépreux, des borgnes, tout ce qu'il y a de terrible, tout ce qu'il y a de pitoyable, tout ce qu'il y a de triste et de monstrueux, vous pouvez le mettre, et c'est le tableau que l'Écriture fait de nous. Maintenant, si nous ne l'oublions pas, alors nous avons la solution à tout ce problème, qui d'ailleurs est un problème relatif, puisque tout ceci, nous le sommes, abstraction faite du baptême, bien entendu. Malheureusement, il y a cette rémanence du vieil homme, cette rémanence de la chute, par-delà les effets du baptême, mais nous sommes baptisés, par la grâce de Dieu. Nous sommes baptisés. Donc il se trouve que lire l'Écriture, se souvenir de ce qu'elle nous dit, et recourir au Christ, sans lequel nous ne pouvons rien, ça, c'est non seulement ce qu'il faut faire pour se sauver, mais c'est aussi être capable d'être récompensé. Quelle est la récompense de ceux qui pratiquent? Écoutez cette petite parole qui passe inaperçue, mes très chers frères, « Hic beatus in facto suo erit », qui est traduit par la traduction que j'ai sous les yeux, et « Celui-là trouvera son bonheur dans ce qu'il fait ». Oui, mais c'est vrai, il trouvera son bonheur dans ce qu'il fait. Il fait un blog, il est content, non. « Hic, celui-ci, beatus, bienheureux, erit, sera » In facto suo, in facto suo, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, on ne va pas tous parler latin, je ne veux pas paraître pédant, mais vous voyez l'importance, de, en tout cas pour les enseignants, de langue originelle. Il sera heureux, il sera bienheureux, beatus, c'est l'anticipation de la béatitude du ciel, in facto suo, il faut paraphraser, dans son devoir d'État. Il sera heureux dans son devoir d'État. Il y a des gens qui voudraient faire tellement de choses en dehors de leur devoir d'État, ils ne seront jamais heureux, même s'ils ont une certaine jouissance d'être admirés, d'être craints, même d'être insultés. Il y a des gens qui sont heureux parce qu'ils ont beaucoup d'ennemis. Tout ceci, c'est pas le bonheur, c'est pas la béatitude telle que Saint Jacques la promet. Hic beatus erit in facto suo. Celui-ci qui écoute la parole en Église, et qui la met aussitôt en pratique, n'oubliant pas quel il est et quel il est avec le Christ, celui-ci sera heureux dans son devoir d'État. Combien de chrétiens sont-ils malheureux dans leur devoir d'État parce que, ou bien ils oublient ce qu'ils ont entendu, ou bien ils oublient que sans le Christ ils ne peuvent rien faire, ou bien ils oublient de demander au Christ sa grâce de la manière qu'il le faut, nous allons voir dans un instant, ou bien ils oublient toutes sortes de choses, ou alors ils écoutent, ils sont fascinés et ils ne mettent pas en pratique. Ils sont malheureux. Mais celui qui n'oublie pas, et celui qui pratique, n'étant pas un auditeur oublieux, celui-ci sera heureux dans son devoir d'État. Il sera heureux dans ce qu'il fait, c'est-à-dire dans ce qu'il doit faire. Vous voulez être heureux en tant que père de famille, mère de famille, en tant qu'enfant, c'est un devoir d'État transitoire, mais enfin qui dure quand même un certain temps, en tant que prêtre, en tant que religieux, etc., soyez autre chose que des auditeurs oublieux, et contentez-vous de faire votre devoir d'État. In facto suo, dans son devoir d'État. Nous devons prendre conscience, mes très chers frères, que Saint Jacques ajoute une précision. Si quelqu'un croit avoir de la piété et ne met pas un frein à sa langue, mais séduit lui-même son cœur, sa piété est vaine. Alors, vous voyez, comme ça arrive souvent dans les épîtres de saint Paul, ça arrive aussi chez saint Jacques. C'est-à-dire qu'on passe de considérations extrêmement hautes à des considérations, si l'on peut dire, bassement mesquines. On est là en train de parler du fait de ne pas être des auditeurs de oublieux, etc. Nous avons vu un certain nombre de choses. Et puis tout d'un coup, saint Jacques dit, et j'ai oublié de vous dire, enfin il ne dit pas ça, mais enfin il dit, et mettez un frein à votre langue. Oui, mais enfin là, ça casse le rythme, ça casse l'ambiance. Enfin, qu'est-ce qu'il va parler de la langue? Attention, justement, vous voulez être certain de ne pas être des auditeurs oublieux, faites attention à ce que vous dites. Mettez un frein à votre langue. On peut avoir dépassé les premiers degrés du factor, on peut avoir dépassé les premiers degrés de ceux qui mettent en pratique et qui ne n'oublient pas, sans pour autant persévérer, mes très chers frères. Or, le secret de la persévérance, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire, le secret de la persévérance, écoutez bien, le secret de la persévérance, il n'y en a pas 36 000, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 2, il y en a 1. Le secret de la persévérance, c'est la mortification de la nature. On ne peut pas persévérer dans cette croissance de la plante spirituelle si l'on ne mortifie pas la croissance de la plante naturelle. Là, le secret, donc, la pierre de voûte de la persévérance, c'est la mortification de la nature. Or, il n'y a pas de plus grande mortification, enfin, en tout cas, c'est parmi les plus grandes mortifications de la nature, que la maîtrise de la langue. Le fait de ne pas parler à tort et à travers, mais aussi le fait, lorsqu'on parle moins, disons, c'est le fait de ne rien dire qui ne soit répréhensible, de ne rien dire qui ne soit à la gloire de Dieu et pour l'édification de son prochain, quand bien même on serait obligé de dire des choses qui blessent, des choses qui doivent être dites dans certains cas. Bienheureux celui qui pratique la mortification de la langue, celui-là, en quelque sorte, est devenu incapable, avec l'aide de Dieu, d'oublier et de ne pas pratiquer. Si vous voulez persévérer, mortifiez la nature. Tout ce qui est créé est un piège pour l'esprit qui aime Dieu. Non pas en soi-même, parce que Dieu a créé des choses bonnes, dans la mesure où elles ne sont pas déformées par le diable, mais c'est un piège. Tout ce qui est créé est un piège pour l'esprit qui aime Dieu, à cause de l'usage appropriatif que nous faisons des choses. Et cet usage appropriatif vient de la concupiscence qui tire toujours la couverture à elle, si vous permettez l'expression. Alors vous allez dire, mais qui peut être sauvé? Évidemment, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? L'Église ne nous laisse pas, vous voyez, contrairement aux gens qui vous donnent des bonnes idées et puis qui vous laissent tout seul, l'Église ne nous laisse pas tout seul. Elle nous donne une oraison. Ô Dieu de qui procèdent tous les biens, exaucez nos supplications, inspirez nos pensées pour nous porter vers ce qui est juste et bien, dirigez nos volontés pour nous les faire accomplir. Qui peut se sauver? Eh bien, l'Église nous donne non seulement, nous indique non seulement qu'il y a un Dieu qui peut nous sauver, mais elle nous donne aussi une formule, la formule pour être sauvé, et toutes les oraisons de toutes les messes sont des formules pour être sauvé, car vous savez que ce sont des formules qui infailliblement seront exaucées par Dieu, dans la mesure où nous les prions telles que l'Église veut que nous les prions, c'est-à-dire avec l'esprit de l'Église, avec un esprit filial. Simplement un esprit filial à quelque niveau d'abjection que nous trouvions. Si nous avons un esprit filial ou si nous désirons avoir l'esprit filial, ces oraisons vont directement dans les oreilles de Dieu, qui sont toujours ouvertes pour les oraisons de sa propre Église, qui est son épouse. Ô Dieu, ô Deus aquo bona cuncta procedunt, ô Dieu de qui tous les biens procèdent. L'Église nous a mis face à nous-mêmes par la lecture de la parole de Dieu. Elle nous a fait un tableau monstrueux de ce que nous sommes, et ce n'est pas tellement un tableau, plutôt que le reflet de ce que nous sommes dans un miroir. Maintenant, mes très chers frères, pourquoi oublions-nous ce que nous voyons dans ce miroir? Nous l'avons dit, parce que ce spectacle est laid. Et lorsque l'on voit quelque chose de laid, eh bien spontanément, on détourne les yeux et on s'efforce de l'oublier. Le problème, c'est que c'est nous qui sommes laids, et ceux qui détournent les yeux de ce miroir divin n'en sont pas moins laids pour autant. Tels que nous sommes, nous nous voyons tels que nous sommes, mes très chers. Ce spectacle est insupportable. Et c'est pour cela que nous nous posons la question, qui peut être sauvé alors, puisque je suis si immonde, si laid, si impuissant, si exécrable? C'est le réflexe de la nature, c'est le réflexe du vieil homme, mais c'est aussi le réflexe de la nature, c'est un réflexe naturel. Il nous faut le surnaturaliser, il nous faut en faire bon usage, de telle sorte que nous ne soyons pas dans une forme ou une autre d'auto-tromperie. Ô Dieu, nous fait dire l'Église, aquo bona cuncta procedunt, de qui tous les biens procèdent. Écoutez ce que l'Église nous fait dire. De nous-mêmes, premièrement, nous n'avons rien de bon, nous l'avons dit. Nous n'avons que le péché, nous n'avons que la liberté de suivre notre propre volonté, qui est la seule chose que nous aimons, et qui est la chose qui, elle, nous déteste le plus. C'est-à-dire que notre volonté propre, quand nous la suivons, que nous faisons absolument tout ce qu'elle nous impose, notre volonté propre nous récompense en faisant que nous soyons damnés. Donc la volonté propre, si c'était une créature indépendante de nous, serait notre pire ennemi, c'est-à-dire serait la chose qui au monde nous déteste le plus. Il y a au monde une personne qui nous aime plus que tout et c'est Dieu, et il y a au monde quelque chose qui nous déteste plus que tout et c'est nous-mêmes. C'est notre volonté propre, c'est la concupiscence. C'est pour cela que l'Église nous fait confesser avant tout, ô Dieu de qui tout bien procède. Vous voyez, l'oraison ne dit pas de qui procèdent les vrais biens, etc. Non, il n'y a pas de bien qui ne vienne de Dieu. Il n'y a de bien que ceux qui viennent de la vérité qui est Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais nous allons un peu plus avant. Et largire supplicibus tuis. Accorder, faites une largesse, accorder à supplicibus tuis. Alors dans la traduction que je l'ai sous les yeux, c'est exaucer nos supplications. Oui, c'est bien exaucer nos supplications. Supplicibus tuis, c'est ceux qui vous supplient. C'est encore plus fort. C'est nous qui sommes actuellement en train de vous supplier. Accordez à vos suppliants. Alors là, j'en profite pour faire une remarque qui, bien souvent, a quelque chose, un réflexe de notre vieil homme. Le vieil homme, comme vous le savez, est spontanément nietzschéen. C'est-à-dire qu'il dit, Dieu veut que nous soyons tout le temps en train de le supplier. Il ne peut pas nous donner les choses d'une manière paisible, il faut tout le temps le supplier. Le problème, voyez-vous, c'est que Dieu, ce n'est pas comme notre prochain. Effectivement, si nous avons un prochain qui nous oblige à chaque fois que nous lui demandons quelque chose de le supplier, alors des fois, quand les petits-enfants supplient les parents de leur donner quelque chose, comme nous l'avons dit, c'est souvent que les parents veulent voir si les enfants veulent vraiment la chose ou si c'est simplement une tocade. Bon, alors là, les parents ne sont pas cruels. Maintenant, si à chaque repas, il faut absolument supplier la mère de famille de faire un repas parce qu'elle ne le veut pas, etc., bon, ben, elle est cruelle. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. S'il nous fait le supplier, c'est qu'en réalité, nous sommes tellement durs et tellement épris de nous-mêmes qu'il veut que nous fassions l'expérience de notre propre méchanceté, notre propre corruption, afin que nous puissions très humblement lui demander ce que nous, finalement, confessons qui nous fait défaut. C'est-à-dire les biens, les vrais biens, les biens, les seuls biens, biens, Dieu lui-même, et tout ce qui va avec, si vous me permettez l'expression. Suppligibus tuis. Donc, accordez à vos suppliants. Pourquoi faut-il être tout le temps suppliant? Eh bien, n'oubliez pas que la Sainte Vierge est appelée la toute-puissance suppliante. Ce n'est pas dégradant que d'être un suppliant. La Sainte Vierge est celle qui supplie constamment. Et elle supplie d'une façon tellement parfaite qu'elle est toute-puissante. Elle est dite dotée de la toute-puissance même de Dieu, puisqu'elle obtient tout ce qu'elle veut de Dieu, puisqu'elle ne veut que ce que Dieu veut. Supplier Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est se détourner de soi-même, se détourner de cette fierté que nous avons par rapport à nous-mêmes, qui nous persuade que sans Dieu, nous pouvons encore beaucoup. Ça, c'est le vieil homme. C'est le vieux Pélage qui nous dit ça. C'est le vieil homme, mes très chers frères. C'est l'orgueil. Être dans l'attitude d'un suppliant, ce n'est pas une attitude ignoble, ce n'est pas une attitude dégradante. Au contraire, c'est le fait de reconnaître notre dépendance de Dieu. Lorsque nous sommes suppliants par rapport à Dieu, nous mettons, si j'ose dire, très saintement, très pieusement, Dieu au pied du mur. Nous disons, Seigneur, je suis fait pour vous, prenez soin de moi. Et là, quel Dieu, digne de Dieu, pourrait dire, ah, j'ai fait des créatures et puis je m'en détourne, le Dieu d'Aristote, le Dieu de Voltaire, le Dieu horloger, le Dieu qui crée les choses et puis ensuite qui s'en détourne complètement, qui s'en contrefiche. Ce n'est pas notre Dieu, ce n'est pas notre Dieu. Il nous faut être donc suppliants vis-à-vis de Dieu, car ce faisant, nous mettons Dieu face à ses propres responsabilités de créateur et de recréateur. Vous voyez, pieusement, saintement, bien entendu. C'est pour cela que, pour être suppliant, il faut être sans arrogance. Si nous sommes arrogants envers ce Dieu, évidemment, nous changeons de disposition. Si nous sommes simplement suppliants et que nous disons, Seigneur, vous nous avez créés, nous les êtres humains, pour être dans une totale dépendance de vous, assumez votre part, alors comment est-ce que Dieu ne nous exaucerait-il pas? Il est impossible qu'il ne nous exauce pas. C'est absolument impossible. Nous confessons notre ordination et notre relativité à Dieu. Il est impossible qu'il ne se comporte pas en Dieu par rapport à nous. Ceux qui sont faits pour Dieu seul, doivent s'adresser sans cesse à lui et non aux créatures. Il ne faut pas un coup s'adresser à Dieu, un coup s'adresser aux créatures, un coup s'inféoder aux créatures, un coup s'inféoder à Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux, c'est-à-dire il est un Dieu qui est Dieu et il est Dieu et il ne veut pas partager sa gloire avec un autre parce qu'il n'y a pas d'autre. Alors que demander? Que demander justement à nous qui nous posions la question comment se sauver si, puisque je fais l'expérience de ma propre misère et que je l'oublie si souvent? Il nous faut lui demander deux choses. Faites-nous cette largesse, Seigneur, à nous qui vous supplions. Ut cogitemus te inspirante correcta sunt. Faites que nous réfléchissions, que nous pensions correcta sunt aux choses droites, que nous ayons à l'esprit les choses qui sont droites, sous votre inspiration, te inspirante. Premièrement, nous devons demander à Dieu que nous ayons à l'esprit que notre esprit, que notre pensée soit dominée, investie par les règles droites. Quae recta sunt, littéralement les choses qui sont droites. Qu'est-ce que c'est les choses qui sont droites? On ne parle pas aux règles, aux bouts de bois qui sont droits, etc. Les choses qui sont droites, c'est les choses qui correspondent à notre devoir d'État. C'est la loi de Dieu polarisée selon notre État. Afin, je vous rappelle, mes très chers, que nous puissions la mettre en pratique. À quoi sert-il de connaître ce que doit faire, ce que devrait faire un roi, ce que devrait faire un président de la République catholique, que sais-je, et de choses de ce genre-là, si vous êtes incapable d'être un bon enfant, un bon prêtre, un bon père de famille, une mère de famille. Vous voyez, à quoi bon être une jeune fille qui pontifie sur ce que doit faire une mère de famille, ce que doit faire une université, si elle-même, c'est une pontifiante et qu'elle est sans mari, sans père, elle n'écoute pas son père, elle n'écoute pas son mari, elle n'écoute pas ses prêtres, puisqu'elle n'en a pas, et elle pérore à longueur de podcast, comme on dit. Non, mes très chers frères, ce n'est pas cela. cogitare correcta sunt, penser aux choses droites. En fait, le catholique ne pense jamais qu'à ceux qui le regardent. Alors vous allez dire, oui, mais alors, si tout le monde faisait pareil, si tout le monde faisait pareil, les choses iraient beaucoup mieux. C'est-à-dire que chacun serait dans l'ordre, et si j'ose dire, les vaches et les moutons seraient bien gardés, selon l'expression. Oui, si. Hey, sans mon poste, sans mon article, sans mon émission que j'ai fait, qui s'adresse au futur gouvernant, au futur pape, au futur... Taisez-vous, mettez-vous à votre place. Taisez-vous, comme dirait l'autre. Mettez-vous à votre place et demandez à Dieu, une bonne fois pour toutes, vous qui vous regardez dans le miroir et qui voyez une telle horreur, demandez à Dieu que vous ayez à l'esprit les choses qui sont droites pour que vous les pratiquiez. Voilà ce qu'il faut demander à Dieu. Mêlez-vous de vos affaires. Laissez ceux qui sont en charge des choses faire leur travail et vous faites le vôtre. Voilà ce qu'il faut. Ut cogitemus, voilà ce que nous demandons. L'Église fait nous demander à Dieu. Ut cogitemus qui recta sunt, que nous pensions aux choses qui sont droites, c'est-à-dire aux choses qui concernent notre pratique à nous. Mais attention, te inspirante, sous votre inspiration. L'inspiration, ce n'est pas l'inspiration poétique qui vient et qui nous rend fous. C'est l'inspiration. Seigneur, sans vous, je ne peux même pas penser à ce qui est droit, aux choses droites, aux principes de rectitude qui doivent m'inspirer dans la pratique de la vie chrétienne. Vous voyez, quand on pense aux choses qui sont droites, mais non pas sous l'inspiration de Dieu, on délire et on pense pour les autres. Alors c'est toujours beaucoup plus facile de penser pour les autres. Si j'étais une mère de famille, je ferais ceci. Oui, mais vous êtes un père de famille. Si j'étais un prêtre, etc. Oui, mais vous êtes une mère de famille. Si j'étais évêque, etc. Oui, mais vous êtes prêtre. Que chacun pense pour soi-même, ou plutôt que chacun, sous l'inspiration de Dieu, demande à Dieu de connaître les choses droites qui doivent être les principes d'une pratique pleine de rectitude, de son devoir d'État. Je vous rappelle que c'est le seul moyen d'être heureux, car le bonheur, qui est ici le bonheur, l'anticipation de la béatitude du ciel, n'est promise que dans le cas du devoir d'État. Celui-là sera heureux dans ce qu'il fait, dans son devoir d'État. Donc, nous demandons à Dieu que sous son inspiration, nous ayons tout le temps à l'esprit les choses, les principes de rectitude qui doivent régler nos actions dans le cadre de notre devoir d'État. C'est pour cela que Saint Jacques, à la fin de l'Épître, nous donne deux grandes caractéristiques de la piété, la piété pure et sans tache aux yeux de Dieu. C'est visiter les orphelins et les pauvres dans leur détresse et se préserver de la corruption de ce monde. Quelles sont ces choses droites, d'une façon générale pour tous les chrétiens, après c'est polarisé en chacun en fonction de son devoir, c'est assister les pauvres, et deuxièmement, se préserver de la corruption du siècle. Cela va contre la nature déchue. On vous dit assister les pauvres, qu'est-ce que c'est ? C'est une métaphore ? Non, c'est assister les pauvres, c'est-à-dire venir en aide à nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin, venir en aide à ceux qui en ont besoin, en commençant par ceux de la famille de Dieu, bien entendu. C'est aussi être sensible aux besoins de son prochain, quel qu'il soit, parce qu'il est fait à l'image de Dieu et que notre charité envers lui peut l'amener à connaître la bonté de Dieu et à vouloir être sauvé, à désirer se tourner vers Dieu. L'assistance aux pauvres est une chose fondamentale. Il faut pouvoir, si dans la mesure de nos moyens, et nous devons nous donner les moyens de le faire, assister les pauvres de l'Église, et d'une façon générale, les pauvres dans ce monde. C'est une chose très importante, donner l'aumône. Et ensuite, se préserver des souillures de ce siècle, c'est une chose très importante, fondamentale, et qui est... Nous ne faisons que la mentionner ici parce qu'on pourrait faire, on devrait faire tout un sermon, ou même beaucoup plus, sur ce sujet. Donc, voyez, des choses concrètes que nous devons faire, assister les pauvres et se préserver de la corruption du siècle. Cela va contre la nature, notre nature égoïste, notre nature finalement mondaine, de telle sorte que sous l'inspiration de Dieu, puisque nous sommes faits pour Dieu, lui seul peut nous inspirer le désir d'être conforme à notre nature. Donc lorsque nous demandons à Dieu que sous son inspiration, nous pensions aux choses droites, nous lui demandons simplement qu'il nous donne la liberté d'être ce que nous devons être. C'est-à-dire qu'il nous mette en dehors de l'esclavage du diable, ou en tout cas de notre volonté propre et de notre nature déchue, de notre concupiscence. Mais ce n'est pas tout. C'est la première chose que nous demandions, ut cogitemus, et ensuite nous demandons aussi, te gubernante et adem faciamus, que nous fassions ces choses sous votre gouvernance, te gubernante, vous nous gouvernant, et adem faciamus, ces choses nous fassions. nous demandons à Dieu un résultat concret. Nous avons donc, dans la première partie, cogitemus consiste à écouter, dans l'écoute, et la deuxième partie, la chose que nous demandons, consiste à faire, faciamus. Faire, mes très chers frères, c'est un résultat concret. Et alors là, j'attire votre attention sur le fait que le moindre trait de l'être, si j'ose dire, en tout cas le moindre mot de ces oraisons, a son sens. Et te gouvernante et adem faciamus. Alors, j'ai traduit par ces choses que nous fassions, que nous les fassions. Ce n'est pas exactement ça qui est dit. Et adem, c'est-à-dire quoi donc? Faites, Seigneur, que vous, sous votre inspiration, nous pensions aux choses, nous gardions à l'esprit les choses qui sont droites, et que ces choses-là même, et adem, ces choses même, nous les fassions sous votre conduite. Alors vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bien sûr, c'est une lapalissade, mais que nous pensions aux choses droites et que nous fassions ces choses droites. Il y a beaucoup de gens qui pensent des choses droites, parce que ce sont des auditeurs, et puis qui font autre chose. Ils pensent à des choses droites, on ne peut pas dire que la plupart des militants pensent des choses qui ne sont pas droites. Mais ils font autre chose. Il faut être soumis aux évêques, les évêques ont une autorité, ce ne sont pas des riens, ce ne sont pas des pélos, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin bon, donc ce sont, il y en a plus qu'on croit, c'est bien, ils constituent la hiérarchie, c'est très bien, et puis bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors on s'en contrefiche et on n'en fait qu'à sa tête, on fait des blogs, des sites, des machins, des trucs, on continue à prêcher, etc. Seigneur, que nous ayons à l'esprit les choses droites, et ces choses-là même, faites-nous les faire, et pas d'autres. Voilà, mes très chers frères, voilà ce que l'Église nous fait dire. Seigneur, faites que nous fassions les choses mêmes que nous avons à entendre et que nous avons à l'esprit. C'est pour ça que nous n'allons pas à l'Église pour, comme disent les Américains, pour avoir une source d'inspiration et puis après de faire un peu n'importe quoi de notre côté et s'inspirer de ces choses. Nous allons à l'Église, nous écoutons l'Église pour faire exactement ce qu'elle nous dit de faire. Pour faire ces choses-là mêmes qui sont droites et qui correspondent à la réalisation de notre nature telle que Dieu la veut pour nous, qui correspondent au contraire de l'aliénation telle que la produit la concupiscence en nous, et qui résulte dans la damnation si nous persévérons dans cette situation. Mes très chers frères, et adem, ces choses-là mêmes qui sont droites, non pas des succédanées, des équivalents, des palliatifs, qui relèvent toutes de la volonté propre. S'appliquer, il nous faut nous appliquer, mes très chers frères, avec ardeur, à pratiquer les maximes de l'Évangile, car ce sont ces choses droites qui, une fois qu'elles sont faites, produisent la vie éternelle. C'est cela que l'Église nous fait demander à Dieu. Et te gouvernante, nous sommes la barque, Dieu est le timonier. Vous allez dire, ça fait penser, tout le monde utilise, et alors, le grand timonier, c'est Dieu, c'est lui, le grand architecte, le grand timonier, le grand maître, c'est lui, tous les autres, ce sont des faux. Nous sommes la barque, et celui qui est au timon, celui qui est au gouvernail, c'est Dieu. Il est le capitaine à bord, et nous sommes ses matelots, ses marins. La barque, mes très chers frères, c'est notre vie, et c'est lui qui dirige. Te gouvernante, voilà ce que ça signifie. Vous voyez, nous avons notre rôle à faire, c'est pas le capitaine qui tire sur les rames, c'est pas lui qui tire sur les cordes, qui fait monter les voiles, etc. C'est lui qui donne les ordres. Il donne des ordres, et parce que c'est notre Père que nous l'aimons, nous lui obéissons. De telle sorte que, faisant ce qu'il nous commande de faire, nous agissons sous sa gouvernance, et agissant sous sa gouvernance, nous ne pouvons pas nous damner. Parce que celui qui obéit à Dieu aime Dieu, parce qu'il a été aimé de Dieu, il l'aime encore plus, et tout ceci se termine par la vision béatifique au ciel, dans cette unité, cette union avec Dieu, avec tous les élus, et qui est anticipée ici-bas par le bonheur dans le devoir d'État. Et cela nous amène à terminer, bien entendu, par notre troisième point. Vous voyez, mes très chers frères, Saint Jacques est parfaitement en accord, si j'ose dire, avec Saint Paul, lorsque Saint Paul dit « c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire ». Or, comment se fait-il que nous soyons si souvent dans une si grande impuissance de désirer et de pratiquer ce que nous devons faire? C'est, encore une fois, mes très chers frères, que nous oublions. Nous oublions quelque chose. Alors vous allez dire, oui, j'oublie ce que je suis, etc. Non, nous oublions encore autre chose. Vous voyez, nous oublions plein de choses en réalité. Oui, nous oublions ce que nous sommes, mais malheureusement, parfois, nous nous en souvenons, mais nous oublions autre chose. Que dit notre Seigneur dans l'Évangile? Magnifique Évangile que nous n'avons pas eu le temps de commenter une autre fois, Dieu voulant. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Votre joie, ce n'est pas une joie abstraite dans l'absolu, c'est votre joie dans le cadre du devoir d'État. Saint Jacques est en phase avec notre Seigneur. Donc, vous demandez quelque chose, vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Mes très chers frères, nous oublions souvent quelque chose de fondamental. Alors ce n'est pas une nouveauté, puisque je pense que nous l'avons rappelé la dernière fois, mais nous oublions une chose fondamentale souvent dans nos prières, les prières vocales que nous faisons à Dieu. Nous oublions quelque chose de fondamental. Nous demandons non pas tellement de demander à Dieu, mais de demander au nom du Christ. C'est lui notre médiateur, notre unique médiateur. Nous demandons, et bien souvent nos demandes sont légitimes, mais nous oublions de demander au nom du Christ. Alors vous allez dire, oui, mais ça c'est dans les oraisons. Oui, mais les oraisons, c'est le modèle de nos prières. Nous devons prier comme selon le modèle des oraisons. Et toutes les oraisons se terminent par, ou bien par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, c'est-à-dire, ou vous qui vivez et régnez, quand on s'adresse au Christ lui-même, ou alors par le Christ, notre Seigneur, etc. Enfin, nous terminons toujours au nom de notre Seigneur. Et lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, mes très chers frères, bien souvent, nous oublions de terminer par l'invocation au Fils. Pourquoi ? Eh bien, si j'ose dire, parce que nous sommes à peu près des musulmans mentaux. C'est-à-dire, nous nous adressons, ou alors des aristotéliciens, ou des païens, que sais-je, nous nous adressons à un Dieu, qui est le grand horloger qui nous a créés. Nous sommes ses créatures, donc nous avons des droits par rapport à lui, et nous lui adressons à lui. Oui, mais ce Dieu-là, si j'ose dire, si tant est que nous ayons jamais eu cette relation à lui, mais ce Dieu-là, il faut être en état d'innocence pour s'adresser à lui. Encore, c'est le Dieu Trinité, donc on s'adresse au Christ aussi. Depuis que nous la perdons d'état d'innocence, nous n'obtenons rien que par le Christ. Si nous nous adressons à Dieu, c'est comme si nous nous adressons à un roi en lui postillonnant et en lui crachant des choses au visage, en lui parlant. Mais vous pensez qu'on va être, nous allons être exaucés ? Il faut s'adresser à Dieu qui nous aime dans le Fils, par son Fils. Aimer le Fils de façon à être aimé du Père, mes très chers frères. Et quand on aime le Fils, on aime obéir au Père, et on s'adresse au Père par le Fils, au nom du Fils. N'oublions jamais, mes très chers frères, de nous adresser à Dieu le Père, par son Fils. Évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne fais que le mentionner. Il y a malheureusement, c'est un fait que l'on constate maintenant massivement, à cause de toutes sortes d'interférences terribles qui se font dans le milieu catholicoïde, il y a un mépris infini et latent pour notre Seigneur Jésus-Christ dans le cœur des catholiques. Pourquoi ? Parce que, pour diverses raisons, j'en mentionnerai simplement quelques-unes, parce que on lit, surtout dans la jeunesse, on lit les auteurs païens, néo-païens, néo-paganisants, etc., qui déblatèrent contre le Christ, etc. Plus anciennement, il y a des auteurs qui, tout en ayant de bonnes idées, ont blasphémé contre le Christ en disant que c'était une sorte de bolchevique de l'Antiquité, et sa mère était une sorte de passionnariat moitié folle. Tout ça reste dans l'esprit. Alors vous allez dire, mais moi je jure que par le Christ roi. Mais justement, le Christ roi, qui est une notion très récente d'ailleurs, le Christ roi est l'alibi pour mépriser le Christ tout court. Alors vous voyez, c'est le même, bien sûr c'est le même. Il est roi aussi, le Christ est roi. Mais le Christ roi, c'est un peu comme le Christ dopé. Si le Christ tout seul, bon déjà c'est un juif, et puis ensuite, bon il ne faut pas exagérer, et puis il y a la croix, c'est maintenant la repentance, ça va, et puis tourner l'autre joue, tendre l'autre joue, etc. Oui, mais... Mes très chers frères, pourquoi cette impuissance, pourquoi cette damnation quasi universelle des catholiques ? Parce qu'ils méprisent le Christ quand ils n'oublient pas tout simplement de prier en son nom. Il faut aimer infiniment notre Seigneur Jésus-Christ, il faut entourer son nom d'une très grande révérence. Soyons heureux de ne pas être des Américains qui jurent véritablement par le nom de notre Seigneur, c'est infernal quand on entend ça. Nous jurons par des grossièretés, donc les Français jurent par des grossièretés, c'est pas mieux, mais enfin disons, c'est dans un sens, c'est pas un blasphème, alors il faut pas, hein. Mais soyons heureux qu'il est moins difficile de reconstituer dans notre cœur la révérence que nous devons avoir envers notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir de la défiance vis-à-vis de notre moi haïssable, nous devons aimer le Fils de Dieu, et demander le vouloir et le faire en son nom, à son Père, qui nous aime parce que nous aimons son Fils. Nous devons lui demander non pour notre avantage, mais pour sa gloire, la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui n'oublie pas ce que nous avons dit, parce que c'est l'Église qui parle, et qui le met en pratique, celui-là, Dieu lui-même, par la bouche de Saint Jacques, lui affirme, il sera heureux dans son état. Mes très chers frères, quelqu'un s'oppose à ce que nous soyons heureux, et c'est la concupiscence, le vieil homme, nous-mêmes tels que nous ne sommes plus, triomphons de celui-là avec l'aide de ce Dieu qui inspire nos pensées et qui gouverne nos actions, et nous serons sauvés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Merci.